Georges Baume, La mort de Faustou. Chapitre 1. Il faisait chaud dans la plaine de Bouzigues, au bord de l'étang de Thau, cet après-midi d'octobre. Toute la famille de maître Claude Arriba était venue défoncer le champ de luzerne sur le coteau qui regarde au loin les énormes Cévennes. D'habitude, Claude, sa femme Olympe et ses enfants naviguaient sur la tartane latine au large de la mer intérieure, afin de plonger des filets de pêche ou de jeter au vol l'épervier. Ce n'était pas leur métier de fouir la terre, de la tracasser du matin au soir pour en retirer en somme de maigres bénéfices. Aussi, là, soufflant à perdre haleine, avaient-ils vu aujourd'hui, avec un grand soulagement, arriver l'heure de manger. Faustou, lui, l'âne précieux, qui, depuis 30 ans, vivait dans cette famille de pêcheurs, se régalait de passer la journée entière à l'air des campagnes. Aujourd'hui, il n'irait pas, entravé par les brancards de la carriole, porter à Metz, la ville voisine, la récolte de l'étang. Libre comme un enfant dans la cour de l'école, il se roulait avec joie dans la poussière du chemin, se mettait de temps en temps à braire, pour le plaisir, vers d'autres ânes qui lui répondaient, ou bien, paisiblement, de ses lèvres gourmandes, il croquait sur les haies sauvages les mûres récents de l'été. Claude le laissait faire. Le dîner, d'ailleurs, absorbait les soins de tout le monde. On s'était installé sous un figuier au tronc d'argent, dont l'automne avait doré les feuilles. On mangeait en riant, sans maudire, à la brise parfumée des plaines qui descendent vers l'Hérault. Quelle faim ! Quel orgueil aussi ! Claude n'avait-il pas reçu de son oncle d'Arles-en-Provence un saucisson ? Jamais à Bouzigues, hameau de cabane où les cheminées de fume que pour cuire des crabes et des sardines, nul, pas même monsieur le maire, n'avait contemplé pareille friandise. Nos Bouzigots, qui sont, ainsi que l'affirme l'histoire, des gens simples et braves, furent bien étonnés, par exemple, de trouver dans leurs tranches fraîches des morceaux de poivre. « Un prodige !» s'écria Olympe. « Tiens, regarde, ça doit être de la poudre. Vous n'avez pas senti entre les dents ?»« Sur la langue aussi !» répondirent les enfants. « C'est plus amer que le fiel et le feu réunis. »« Qu'est-ce que ça peut être ?» réfléchit maître Claude. Il se recueillit, et tous avec lui. Soudain, portant la main à son front, il clama sur un ton de triomphe. « J'ai trouvé. Ce n'est pas des grains de poudre. » C'est de la graine de saucisson, parbleu. Tu as raison, Claude, des graines de saucisson. À la ville, on connaît de ces merveilles qui vaudraient de l'or dans nos villages égarés sur l'eau. Tout de même, nous pourrions gagner notre journée, sais-tu ? Explique-toi un peu. Les Provençaux sont intelligents. Nous autres, en Languedoc, nous ne savons rien. Nous ne possédons pour la pêche que des barques qui datent de Mathusalem, et quand nous voyons un mouton dans une de nos ruelles, nous nous imaginons qu'il s'est produit un miracle. Je comprends de moins en moins. Nous tenons la fortune, je te dis. Nous pourrions vendre sur toute la côte du Languedoc de cette friandise de ton oncle. Car nous n'avons qu'à rassembler ces graines qui nous étonnent tant et à les semer ici même, sans tarder, dans notre luzerne. « Oh, merveille ! Nous n'aurons plus qu'à nous croiser les bras !»« En mai prochain, quand nos fruits seront bien mûrs, nous achèterons un autre Faustou, une autre carriole, et en avant, nous irons voir du pays en remplissant notre escarcelle de jolies pièces blanches. »« En remplissant notre escarcelle de jolies pièces blanches. » Ils se regardèrent tous en silence. L'émotion de la fortune prochaine les troublait au fond du cœur. Le soleil avait pour eux des caresses plus douces, et sur les champs d'alentour, il s'étendait avec une splendeur religieuse, sur les plaines, çà et là, tachées de rouille, et, au loin, sur l'étang bleu bordé de sable d'or. Tout à coup, dans une effusion de plaisir, ils éclatèrent de rire ensemble. Tournés vers les cabanes du hameau, ils haussèrent les épaules dédaigneusement. Maître Claude n'avait plus d'appétit. La face desséchée par les vents et par la lumière du ciel, il se dressa de toute sa taille, qui était maigre et droite comme un mât. Il ouvrit ses mains noires avec un geste de commandement, et, tout bas, d'une voix de mystère, il dit « Si nous voulons réussir dans notre entreprise, ne révélons à personne le secret. ces emplâtres de Bouzigues seraient capables de nous prendre pour des compagnons d'une sorcière. » Là-bas, dans la poussière du chemin, Faustou se roulait en se grattant l'échine, levait ses pattes velues, faisait mille cabrioles, en fermant les yeux au blond soleil. Comment se fût-il douté, le pauvre, qu'il jouissait, pour le dernier automne, de la tiédeur du sol blanc, de l'âpreté des herbes calcinées? Ses maîtres, sous les branches du figuier, échangeaient leurs projets et leurs rêves. Seulement, ce n'était pas l'heure de la songerie. Il fallait se mettre à la besogne sans différer, au risque d'être surpris par quelques pêcheurs errant dans les sentiers des cultures. Après avoir, avec minutie, rassemblé les moindres grains de poivre, ils creusèrent, en un lambeau délaissé de leurs champs, autant de sillons que possible. Claude, d'une main tremblante, voulut semer lui-même les graines merveilleuses. Olympe le suivait avec docilité, se gardant bien d'élever la voix pour ne pas le faire trembler. Leurs cinq garçons, trapus et rouges comme la mer, recouvraient de terre expurgée de cailloux les semences dans les sillons menus que les brumes de l'aube arroseraient demain. L'ouvrage terminé, ils se regardèrent en riant de nouveau. Quelle aubaine! Quelle gloire! Aurait-il le courage de rester bouche close devant le monde? Ce soir, ils ne voulurent plus s'occuper de la luzerne. Après avoir habillé Faustou de son bas et de ses corbeilles, ils s'avancèrent dans le chemin où déjà s'allongeaient les ombres violettes de quelques oliviers. Les cinq garçons, bras dessus, bras dessous, entonnèrent une chanson, ardents à réveiller aujourd'hui les échos joyeux de la colline. Olympe et Claude marchaient balourds, en épiant à droite et à gauche si, par hasard, des voisins n'avaient pas surpris le miracle. Quant à Faustou, il dressait parfois ses longues oreilles avec appréhension. Car on ne le grondait plus, on ne le frappait pas ce soir à cause de ses flâneries le long du chemin. Que se passait-il donc dans l'âme de ses maîtres? Chapitre 2. Le lendemain, durant 8 jours, la pluie ne cessa de tomber. « Ça va bien pour nos semis !» murmurait Claude en se frottant les mains. « Je te crois, répondit Olympe, nos saucissons auront levé, tu verras. Seulement, dis-moi, tu n'as pas peur ?»« Quoi, tu m'effraies ?»« Il me semble que nos voisins nous observent. Auraient-ils deviné quelque chose? Ou bien nos enfants auraient-ils bavardé ?»« Ah, si quelque animal avait bouleversé notre champ sous le figuier !» Et voilà que, dans leur félicité, les haribas, comme tous les riches, connaissaient le tourment de la crainte. D'ailleurs, ils n'avaient pas tout à fait tort. Les voisins, intrigués par leur cacheterie et leur contentement, avaient cherché à pénétrer le secret de leurs pensées. Comment diantre ces haribas pouvaient-ils se louer de la pluie et des tempêtes qui ravagent les eaux de l'étang, entre lesquelles une tartane ne pèse pas plus qu'une coque de noix? Bientôt, les garçons de Claude, à force de vantardise, entr'ouvrirent un peu leurs espérances devant les camarades. 4 mots jetés de loin en loin dans la conversation, Arles, Sillon, Graines, Miracle, il n'en fallut pas davantage pour provoquer le rire de tous les bousigots, un rire qui, après tout, dissimulait l'envie. Seulement, comme ils avaient de la malice, ceux-ci feignirent de ne rien comprendre, afin d'observer plus à l'aise les gestes de Claude. Dès que la pluie cessa, Claude, avec sa famille et son âne Faustou, s'en fut au champ sur le coteau. Oh bonheur, les graines avaient germé. L'herbe, grâce à la pluie, poussait abondante. Allons, s'écrièrent les haribas avec enthousiasme. Nos saucissons viennent. Nous irons au printemps les vendre à la ville. Les châteaux en Espagne apparurent plus radieux à l'horizon. Dans 8 jours, le carré d'herbe serait devenu un bouquet de roseaux, puis, avant la fin de l'année, un taillis d'arbustes aux souples ramures bourgeonnantes. Sur la côte du Languedoc, à la vérité, l'hiver a une tiédeur de serre. Pourtant, le jour des semailles, le champ de luzerne avait été négligé. On s'en retourna donc bien vite à la besogne, là-bas, sur le bord de la route. Faustou, débarrassé de son bas et de ses corbeilles, demeura seul auprès du figuier. Quelle fête! Ses maîtres, maintenant, le conduisaient à la campagne pour ne rien faire. Le soignait-on dans sa vieillesse afin de le garder plus longtemps? Ou bien, en compensation de tant de bourrades qu'il avait reçues, voulait-on, en ces derniers jours, lui permettre quelques fantaisies ? Dans une effusion de plaisir et de gratitude, il se mit à braire. Le printemps, alentour, semblait recommencer. Le coteau, encore trempé des eaux du ciel, brillait comme un joyau d'émeraude. Des oiseaux roucoulaient dans les vignes aux pampres rouges ou sautillaient de branche en branche dans les oliviers. À la brise de mer, qui avait une voix d'enfant câline sur les cailloux du chemin et dans les luzernes, Faustou éprouva l'appétit gai, audacieux, du temps qu'il était jeune. Il rôda autour du figuier et, repliant ses oreilles pour ne point les piquer aux brindilles sèches, il flaira, chercha des yeux quelques feuillets encore vivantes. Le malheur, c'est que les dernières canicules avaient presque tout dévoré. Alors, après avoir examiné par-dessus la haie de mur la terre du voisin, il flaira le sol, chercha nonchalamment des plantes fraîches. Il y avait là le champ du miracle, devant ses sabots, des herbes vertes, si tendres, si parfumées. Il eut vite fait de les croquer toutes, vous pensez ? Il se réjouissait si bien qu'il manœuvrait lentement, avec délicatesse, pesant sur la terre aussi peu qu'il pouvait, laissant chaque fois un tout faible brin d'herbe, afin que, dans une semaine, la gourmandise montât de nouveau. Pour ne point gâter sa joie, il dédaigna de toucher aux haies sauvages. Il se mit à braire vers ses maîtres qui labouraient avec des bêches. Puis, de son pas philosophe, il s'en alla se coucher sur un tas de pierres et dormir. Le vent qui se levait plus fort, les rayons du soleil qui sèchent les poussières en les réunissant, réparèrent de compagnie les dégâts du champ du miracle. Le silence rayonnait sur la colline et sur les plaines. Là-bas, au large de l'étang, des pêcheurs de bouzigues, en plongeant, à l'ombre de la voie latine, les filets de leurs tartanes, s'étonnaient que Claude, au lieu de les accompagner, prit tant de goût à la terre. Vers le soir, lorsque les haribas remontèrent vers le figuier, Faustou dormait toujours, bien sage, sur les pierres. Hélas, dans la poussière, le moindre brin d'herbe avait disparu. C'était encore un miracle. Quel démon avait si vite dépouillé les sillons ? Claude tremblait, avec un tel désordre en son entendement, qu'il ne trouvait pas une parole. Olympe, ses poings aux hanches, poussait des plaintes. Les cinq enfants ouvraient leurs gros yeux avec terreur, examinant alentour et sur le figuier même s'il ne restait point des traces de maraudeurs. Aucun d'eux n'eut le soupçon que Faustou, si modeste et qui se contentait d'habitude des herbes du chemin, avait pu commettre un sacrilège. « Sûrement, s'écria Claude, c'est quelque jaloux de Bouzigue qui a profité de notre absence pour nous voler. » « Aussi, répliqua Olympe, pourquoi es-tu si confiant ? Nous aurions dû surveiller nos semences. » « Toi, tu as de l'esprit toujours trop tard. » « Moi, dit l'aîné des enfants, je me doutais un peu, seulement je n'ai pas osé parler. » « Tais-toi, nous sommes des bêtes !» Et ce fut une explosion d'injures et de menaces. Ils faillirent se battre. Faustou, à leur cri de dispute, secoua son échine, se remit sur ses pattes et lentement s'en vint sous le figuier. « Tais, voici Faustou !» s'écria Claude. « Dis, Olympe, ne serait-ce pas lui qui aurait mangé l'herbe ?»« Impossible, un âne n'aime pas les saucissons. »« Il est si roué, le nôtre, malgré ses manières d'imbécile. Tout de même, s'il pouvait me comprendre... » Maître Claude serra les naseaux de la bête entre ses mains terreuses et parut, en le regardant au fond des yeux, juger sa conscience. La bête ne bougeait pas, docile devant ses regards mauvais de l'homme, qui d'habitude la caressait au moment de repartir pour le hameau. Elle évita de braire quand on la revêtit de son costume. Ensuite, insensible aux invectives et aux coups de bâton, elle suivit ses maîtres dans le chemin. La tête basse, elle songeait. Qu'avaient-ils donc ce soir ces pêcheurs de bouzigues, si guillerés d'ordinaire ? Ils criaient plus fort que des enfants sur la grève, et c'est lui, finalement, qui recevait leur bourrade. Chapitre 3. Le lendemain dimanche, à Bouzigues, sur la place de l'église, on ne s'entretenait que des mésaventures de Claude, car dans sa détresse, il n'avait pu garder plus longtemps le secret des plantes merveilleuses. Il se consolait en demandant au monde la charité d'un conseil, d'une assistance. Ses camarades, pour mieux le tromper, l'abordaient avec des mines pleurnicheuses, lui donnaient du courage en opinant que la terre avait gardé les semences pour le printemps. Les herbes avaient dû rentrer toutes seules à cause des froides rosées de l'automne. Puis, quand ils étaient loin, ils riaient. Ah, les saucissons de Bouzigues, la fortune de Claude, le pêcheur de sardines. Après 2 jours de réflexion, Claude décida, en famille, de consulter officiellement les plus savants du hameau. Ceux-ci donc se rassemblèrent en un jury présidé par le maire, qui était un des socialistes farouches de la côte. Le jury conclut que l'âne, malgré ses airs de Sainte-Nitouche, devait être le coupable et que, selon toute justice, il devait être puni. Châtier Faustou, c'est facile à dire. On se faisait mal à force de le battre sans l'ébranler. Il ne ruait même pas quand on lui administrait des coups de pied. Il résistait aux coups de bâton mieux qu'un mur de Bouzigues. Fallait-il le tuer avec un couteau ou seulement l'estropier? Après les saucissons, fallait-il encore perdre Faustou? Le plus intelligent des Bouzigots émit l'avis de conduire Faustou à l'endroit même du crime et, là, de le frapper sans pitié, tout le peuple ensemble, jusqu'à ce que la terre fût satisfaite. Elle voudrait sans doute, aux aurores prochaines, permettre aux plantes du miracle de chercher le soleil. Le dimanche suivant, la race de Bouzigues, enfants, femmes, vieillards, se déroula bruyamment par la plaine en chantant la farandole. Des drapeaux, des bannières tricolores flottaient dans la lumière exquise de cette fin d'octobre. Claude, le front penché, marchait avec colère, d'un pas mal assuré. Au milieu du cortège, dans la confusion des clameurs, il s'adressait par intervalle à Faustou. « Anne, tu vois, bien que ce soit dimanche, je t'ai habillé du bas et des corbeilles pour te faire honte. Marche, brigand !» Faustou cheminait avec résignation, peureux et doux. Il se moquait des outrages du maître, auxquels d'ailleurs il était accoutumé. Ce qui l'effrayait le plus, c'était le tumulte de ce monde en foule, le vacarme des fifres et des tambours, et il se disait que peut-être le carnaval, maintenant, commençait à l'automne. Il avait bien raison de craindre. Autour de lui, tous ces pêcheurs de Bouzigues étaient armés, les uns de rames ou de pelles, les autres de cordes ou de bêches. Le forgeron portait le marteau de l'enclume, le boulanger portait sa fourche. Claude s'était muni d'une lanière qu'il avait nouée tout du long plusieurs fois et il la brandissait avec rage. Enfin, le cortège, ayant pénétré dans la luzerne, s'avança vers le filet sur le tertre léger que Faustou connaissait bien. C'est là qu'il avait dormi l'autre jour au soleil et qu'après avoir savouré les herbes tendres, il s'était gratté les chines en faisant des cabrioles. Point de sieste aujourd'hui, hélas! Claude et Olympe, de leur main brutale, le renversèrent sur le sol, et bien qu'il essayât de protester, le lièrent solidement de cordes. Il ne comprenait rien du tout. Il implorait en vain de ses gros yeux humides son maître, qui, en le grondant, lui tirait les oreilles. La musique s'était tue. Parmi le peuple, chacun s'apprêtait à la bataille en retroussant les manches. Claude se recueillit un moment afin de retrouver son courage. Dans le silence joli de lumière et de feuillage doré, il soupira de chagrin à la pensée que peut-être des jaloux allaient massacrer la brave bête, innocente, qui savait. Puis, tandis que, n'ayant plus aucun espoir de comprendre, Faustou s'abandonnait au sommeil, il se redressa vers le peuple et parla. « Prenez garde, dès que je ferai signe, fifres et tambours, vous jouerez vos musiques. » Et vous, mes camarades, vous travaillerez en cadence de vos rames et de vos pioches. Une, deux, en avant. » Les fifres et les tambours partirent en fracas. Les rames, les pioches, les bâtons tombèrent drus sur le robuste Faustou qui n'eut qu'un frisson. De ses oreilles abritant ses yeux, il attendit sagement que l'orage fût passé. Le forgeron s'arrêta de brandir son marteau lorsqu'il le crut mort. Et tout le monde, même la musique, de lassitude, s'arrêta. « Je te réponds, gémit Olympe, que cette correction lui servira. »« Si les graines ne germent pas de nouveau, répondit Claude, c'est que mon oncle me les aura envoyées mauvaises. » On délia Faustou. quelle volupté il ressentit de se rouler en cabriole, de se secouer librement, d'ouvrir les yeux en reconnaissant le ciel du coteau. « À présent que tu as souffert, lui dit son maître, je te plains. Attends, je vais te soulager. » Et maître Claude prit sur son dos le bas chargé de laine. « C'est moi qui le porterai, vois-tu ? Seulement le chemin est long, je vais te monter dessus comme un fier cavalier. » Ainsi accoutrés, ils prirent la tête du cortège. Kaenka, tirant la langue, Faustou marchait tristement au hameau. Le chemin, sous les pas de la foule désormais paisible, fumait d'une poussière blanche. Le ciel était rouge et les eaux bleues de l'étang recevaient çà et là ses reflets de flammes. Dans le village, au milieu de la place, Claude descendit de sa monture. « C'est drôle, pensa-t-il tout haut. Chaque fois que nous passons sur la place, Faustou regarde au clocher les herbes qui y frémissent dans le vent. Nous allons voir aujourd'hui. » Faustou, allégé de son fardeau, ne manqua pas cette fois encore, pour s'étirer un peu, de lever la tête et de braire. « Je crois, répondit Claude, qu'il a envie de ces herbes. Cette gourmandise doit l'inquiéter. Si nous le portions là-haut pour le guérir totalement de ses maladies. Une fois qu'il aurait satisfait son caprice, il serait raisonnable, j'espère. Qu'en dites-vous, mes camarades ? Pardi ! Ah, ce Faustou, quelle peine il nous donne ! On s'en fut choisir de grosses cordes de tartane que maître Claude, ses 5 enfants et plusieurs camarades emportèrent sur la terrasse à créneaux. Claude fit couler le cordage jusqu'à la foule, entre les mains d'Olympe, qui riait du plaisir d'être admiré par les commères de son âge. Pauvre Faustou, il se résignait toujours. Dans les bras d'Olympe, il abandonna sa tête, s'imaginant qu'on l'amenait dans une écurie nouvelle. En avant, Faustou n'eut pas le temps de braire. Une brusque secousse le souleva, le suspendit en l'air, au long des pierres de l'église. Plus les cordes tiraient, plus se décrochaient ses mâchoires énormes. Tais, fit Claude émerveillé, notre Faustou a faim. « Regardez-moi ça comme il montre les dents !» Faustou arriva tout de même là-haut, au pied de son maître, mais jamais plus il ne revit sur le coteau le chant du miracle.